La science, c'est QFD. Antoine Beauchamp.
L'univers est une fable, une histoire que chaque génération s'efforce d'améliorer. Ce sont les mots de notre invité du jour, David Elbaz, et c'est l'histoire que nous allons vous raconter. Ces mots que je viens de citer, David Elbaz, sont à l'image de votre travail de recherche sur le bal des galaxies, sur leur formation et leur transformation. Votre travail, du reste, n'est jamais éloigné d'un certain goût pour l'art et pour une forme de magie qui transparaissent dans tous vos écrits, ce qui fait de vous l'un des meilleurs passeurs d'étoiles que nous connaissons. On s'assied donc à vos côtés pour vous écouter nous raconter cette fable intergalactique. David Elbaz, le compteur d'étoiles. Bonjour David Elbaz.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Vous êtes astrophysicien, directeur scientifique du département d'astrophysique au CEA et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'univers et aux galaxies. Le dernier en date vient de paraître chez Odile Jacob et il s'intitule « Les 10 001 nuits de l'univers, la danse du cosmos ». Je rappelle à nos auditrices et nos auditeurs que vous pouvez, comme chaque jour, nous suivre en direct sur notre fil Twitter « @sciencesqfd ». Alors David Elbaz, on est vraiment ravis de vous recevoir pour une heure de grand entretien, la tête tournée vers le ciel. Vous nous dites dans votre dernier livre que l'univers s'est transformé en livre d'histoire, au pluriel, depuis que l'abbé Georges Lemaître a émis au début du XXe siècle l'hypothèse du Big Bang. De livre en livre, vous vous faites le conteur talentueux de ces histoires. Avant de parler des rivières célestes, des flambées d'étoiles, de ces mondes foisonnants révélés par l'infrarouge, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pourriez... Alors, vous livrez une autre forme de récit et nous dire dans quel univers vous êtes né, d'où vous venez.
Oui, bah merci de me donner cette opportunité. J'avoue que pour moi, l'univers, c'est une façon de se demander... Vous voyez, là, je suis dans un studio. Par la fenêtre du studio, je vois le mur d'un immeuble en face de moi. Et j'ai toujours quelque chose qui bloque mon horizon, qui m'empêche de voir au-delà. Et quand j'étais petit, j'étais confronté au moment de m'endormir à toutes ces questions de ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ce qu'on voit? Et est-ce que le monde est limité à ce qu'on est, etc. Enfin, des questions qui sont essentiellement spirituelles. Hein, mais, et j'avais une certaine inquiétude. Et mon père venait me raconter des histoires qui étaient toujours des histoires autour de l'univers et qui concernaient l'infinie richesse de l'univers qui est pratiquement un lieu où tout est possible, où on peut libérer son imaginaire, et il est presque difficile d'imaginer quelque chose qui ne puisse pas être possible. Et donc c'était comme une forme de libération et comme une forme d'espoir permanent nourri par le simple fait qu'il existe au-delà des murs, au-delà de l'atmosphère, un lieu où tout est possible. Et donc je viens de là, je viens de ce monde ultra naïf, de quelqu'un qui pense que même s'il sait que tout n'est pas effectivement possible, il y a un tout possible, il y a quelque chose de... Et c'est comme si l'univers rentrait dans ma vie pour faire qu'elle colle le plus possible à un conte que je coécris en marchant dans la rue. Voilà.
C'est drôle parce que donc c'est votre père qui vous met sur la piste du cosmos par le récit, par le conte déjà. Vous avez une autre dimension, alors vous êtes un conteur, je le disais en introduction de cette émission, mais vous êtes aussi un observateur. Est-ce que vous avez des souvenirs de ces premières observations de ciel nocturne quand vous étiez petit? Est-ce que déjà vous vous posiez des questions? Vous vous y intéressiez avec un esprit déjà un petit peu scientifique?
Oui, alors je ne sais pas si c'est scientifique. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est la confrontation au fait que bah, si effectivement il y a un infini derrière les murs, on est confronté à un autre problème qui est comment peut-on imaginer l'infini? Comment l'infini peut-il exister? Comment est-il possible que des choses existent que je ne peux pas imaginer? Et donc là, j'étais confronté à la limitation de ma capacité d'imagination elle-même. Alors, pour tout vous dire, c'était cette vision de l'infini. Pour moi, c'était pas tant la constellation un tel ou un tel qui m'intéressait, ou telle étoile, parce que j'avais plutôt une vision du ciel un peu comme Miles Davis lorsqu'il parle de la musique et qui disait que chaque note de musique est là pour faire entendre les silences entre les deux. Voilà. Et pour moi, les étoiles sont des marqueurs comme des notes de musique inscrites sur une partition qu'est la voûte céleste, de la profondeur de cet univers avec tous ses possibles. Et qui sous-tend un peu la question de « mais qu'est-ce qu'on fait là ?»
Déjà, ce qui vous intéressait finalement, c'était cette obscurité qu'il y a entre les étoiles et qui est bien plus importante, bien plus imposante que ces petites têtes d'épingles lumineuses. Est-ce que déjà à cette époque-là, dans votre enfance, dans votre préadolescence, vous pensiez que ce métier-là puisse être un métier envisageable pour vous et qu'il puisse être aussi vecteur de récit et que vous puissiez plus tard en faire un récit?
Non, en fait, j'avais, pour tout vous dire, j'ai jamais imaginé, et j'ai encore maintenant du mal à imaginer, qu'il y ait des gens comme moi, même maintenant j'ai du mal à le dire, dont le métier, c'est d'essayer de retrouver l'histoire de nos origines, l'histoire de l'univers, et que ce soit un métier.
J'avoue. Pourquoi ça
bah parce que pour moi, un métier, c'était quelque chose qui était directement utile, qui participait directement à la société. Maintenant, je pense qu'on participe vraiment à la société, mais par exemple, quand j'ai été embauché en tant que chercheur, j'ai passé des années à m'attendre à ce que quelqu'un tape à la porte et vienne me dire, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Allez, ça suffit.
C'est fini la blague.
C'est fini.
Rattachez-vous.
Donc, et puis, je me rappelle avoir vu à la télé, de temps en temps, un scientifique qui venait. Alors, c'était peut-être aux informations, c'était peut-être... Et là, il parlait. Alors, c'était un peu comme un conteur. Sauf que le monde, la vie quotidienne, le monde qu'on connaît, le monde de la réalité était devenu compatible avec le monde du rêve, avec le monde des histoires magiques, avec le fait qu'on pouvait libérer l'esprit grâce à... Alors, ce qu'on appelle la science, mais qui est en fait le regard qu'on peut porter pour essayer de décrypter les mystères de l'insondable univers. Et quand ils parlaient, ces gens-là, que ce soit pour les trous noirs, l'espace, telle fusée qui vient d'être envoyée, etc., j'avais l'impression que... Je ne pensais pas que c'était un métier. J'avais l'impression que c'était des gens qui étaient totalement inaccessibles et qui avaient accès à un savoir secret, un peu comme un sorcier dans les temps anciens.
Voilà,
un demi-dieu qui arrivait, qui descendait du ciel et qui repartait.
Alors, vous le dites très bien dans l'introduction de ce livre, « Les 10 000 et une nuits de l'univers », que les sciences sont ont une dimension imaginaire beaucoup plus importante que ce qu'on veut bien croire. On a souvent tendance à penser aux scientifiques comme une personne très rigoureuse, très finalement cadrée sur ses chiffres, etc. Pourquoi est-ce que l'astrophysique, dans ce panorama général des sciences, a encore plus recours à l'imaginaire et est, selon vous, la science qui mobilise le plus ou qui se rapproche le plus du récit et du conte?
Alors, il y a plusieurs raisons pour cela. La première, déjà, c'est que j'étais formé, par exemple, dans le domaine de la physique du solide. Si vous voulez étudier la structure cristallographique d'un certain solide, vous pouvez utiliser des différentes techniques. Vous faites passer des neutrons, etc. Vous mesurez le champ magnétique. Vous pouvez prendre avec vos mains l'objet. L'univers, vous ne pouvez pas le prendre. Vous ne pouvez même pas aller dedans. Vous pouvez même à peine aller sur la Lune. Donc, la seule chose que vous avez... Ce sont quelques lettres du récit de l'univers, qu'on appelle des particules de lumière, qui viennent se déposer sur les pages de ce que vous appelez un télescope. Et progressivement, vous voyez apparaître des mots et vous essayez de deviner quelle est l'histoire. Et donc, il va falloir développer son imaginaire parce que vous ne pouvez pas toucher à la chose, vous pouvez juste reconstruire ça. Et puis, l'histoire a montré qu'en fait, en étudiant, en décodant ces pages, on s'est rendu compte que toutes ces lettres venaient du passé. Et donc, l'univers est un véritable livre d'histoire. Juste une petite anecdote que je raconte dans le livre, mais en 1845, Edgar Poe imagine la princesse Scheherazade, celle des contes des 1 000 et 1 nuits, si elle était vivante à l'époque contemporaine d'Edgar Poe, quel serait le 1 002e conte qu'elle raconterait au roi de Perse. Et elle dit au roi de Perse, vous savez, il y a quelque chose de plus extraordinaire que le fait de frotter une lampe magique et qu'il en sorte un génie. Que le fait de dire « Sésame, ouvre-toi » et la porte d'une grotte s'ouvre, ou que de voler sur un tapis volant, ou encore des djinns avec des pouvoirs magiques. C'est le fait que n'importe quel être ordinaire, qu'il soit un chien, un chat, un homme ou une femme, dès lors qu'il tourne le regard vers le ciel, peut voir des millions d'années dans le passé. Que fait le roi de Perse? Le roi de Perse, quand il entend ça, il dit « C'est déraisonnable ». Et elle ne passa pas la journée suivante, elle trépassa. C'est-à-dire qu'après ce que toutes les histoires qu'avait entendues le roi de Perse, plus magiques les unes que les autres, qu'il avait toutes acceptées, dès lors qu'on lui a parlé de cette réalité, qui est tellement folle qu'elle dépasse les plus folles histoires imaginaires, c'en était trop. Et c'est ça qui est magique dans l'astronomie, c'est ça qui porte à imaginer l'impossible, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même en train de parler d'objets qui existent, on mesure la distance, 26 000 années-lumière, on appelle ça un trou noir galactique, dans lequel il serait possible, même si, que ce soit une porte vers d'autres univers, que, etc. C'est-à-dire que si vous racontiez ça dans un livre, même adressé à des enfants, votre enfant vous dirait « Excuse-moi, mais autant je comprenais quand le type volait avec sa cape, autant là tu exagères. » Ça va au-delà des limites de l'image. Voilà, donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous libérez votre regard de la façade du mur qui est en face de vous. Le conte, qu'est-ce que c'est? C'est se libérer, c'est transmuter le quotidien et voir la nature profonde des choses qui nous échappent totalement et voir qu'elle recèle un profond mystère où il est peut-être possible que des choses aient sens au-delà de ce qu'on comprend. Et donc, vous avez l'espoir qu'il y ait des sens derrière et donc vous êtes en quête d'un sens.
Alors, voir, c'est essentiel dans votre métier puisque vous êtes observateur et non pas théoricien. Il y a deux grandes familles dans l'astrophysique. Exact. L'astrophysique théorique, des personnes qui postulent des explications rationnelles à des incompris du fonctionnement de l'univers. Et puis vous, les observateurs, quelle différence fondamentale vous faites entre ces deux approches-là et pourquoi vous avez choisi la voie de l'observation?
Alors, c'est deux mondes qui se parlent beaucoup. Hein. J'étais avec des collègues qu'on appelle théoriciens justement hier soir. On discutait ensemble. Voilà, il me disait par exemple, nous, à chaque fois qu'il y a une petite observation qui arrive, on a un article qui est prêt pour sortir une nouvelle théorie. Ce sont des producteurs d'histoire. Bon. Les observateurs, ce sont des gens qui... La façon que j'aime raconter ça, c'est imaginez que vous ayez un anneau. Et cet anneau, en fait, vous pouvez le placer où vous voulez, mais pour qu'il colle à la réalité, il va y avoir un axe. Il faut qu'il soit toujours ancré dans le réel, même si c'est par un point, il tourne autour. Il a une certaine liberté, mais nous essayons de faire un modèle, donc cet anneau qui est cohérent, donc qui se tient de lui-même, mais qui est ancré dans le réel, dans des choses qu'on voit. Donc on fait un peu de théorie, le principe de base, c'est que si vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez quand même le décrire. Tandis que le théoricien, vous décrire une théorie qui pourra peut-être ne jamais être observable. C'est ça un peu la différence. Et donc, il travaille avec le papier crayon, les équations, tandis que nous, on va peut-être travailler beaucoup plus avec ce que j'appellerais le réel, tel qu'on le perçoit.
Ce réel qui est particulièrement beau, cette dimension esthétique et cette beauté, c'est rare aussi qu'on entende des chercheurs en parler avec autant de ferveur que vous, David Elbaz. Généralement, les scientifiques, justement, se méfient de ces considérations un petit peu esthétique. Pourquoi est-ce que vous, cette beauté-là, elle a une place centrale dans vos travaux et dans votre approche scientifique?
Je pense que l'émerveillement, c'est une source d'inspiration fondamentale. Et quand on regarde les écrits des penseurs, des scientifiques qui ont fait avancer la science, le moment où ils ont défriché une terre nouvelle n'est pas un moment où ils avancent par une pure logique 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, etc. C'est un moment où, portés par leur imaginaire, portés par leur émerveillement, ils vont utiliser des analogies. Ils vont utiliser tous les outils qui sont à leur disposition pour essayer de se demander qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Einstein a eu son prix Nobel du fait d'un article qu'il a publié en mars 1905, dans lequel il déroule un raisonnement logique en décrivant le comportement de la lumière. Puis il s'arrête, il dit « je ne peux pas aller plus loin ». Puis il déroule le comportement de la matière, puis il s'arrête. Et après il dit « tiens, c'est marrant, ça se ressemble. Et là, il y a le « et si » du compteur. Et si l'énergie était faite de grains, comme la matière? Mais alors? Et là, vous êtes face au compteur. Et donc là, il est complètement dans la tenue du compteur. Et après, il reprend sa tenue du scientifique et dit « Eh bien, maintenant que j'ai construit ce compte, validons-le. Vérifions si c'est vrai. Si c'était vrai, alors tac, 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 tac. » Mais sans le « et si », à un moment donné, là, il n'aurait pas pu avancer. Et c'est quelque chose qu'on ne sait pas vraiment. On a l'impression que la science avance par pure logique mécanique et que donc tous les scientifiques sont censés dire la même chose, être tous d'accord parce que c'est imparable. Non. Lorsqu'on décriche une Terre nouvelle, eh ben, il y a plusieurs voies d'accès.
Il y a toujours une hypothèse de départ. Oui. C'est vrai que cette hypothèse a une dimension fictive, fictionnelle, et qui est nécessaire à la production d'un savoir scientifique. Est-ce qu'on peut dire, du coup, que, David Elbaz, votre vocation, grand mot pour parler de science, de recherche scientifique, mais est-ce que votre vocation vient, du coup, de cette volonté de créer une forme de récit à partager avec le plus grand nombre de personnes possible?
Oui, vraiment. Pour moi, j'ai envie de dire, le récit compte. C-O-N-T-E. Mais c'est vraiment s'inscrire dans un récit, se repérer dans notre histoire. C'est quelque chose qui est pour moi très important. Je discutais il n'y a pas longtemps avec Hubert Reeves et qui me disait, mais vraiment, c'est vraiment ça le truc. Et on était d'accord. C'est d'expliquer aux gens que l'histoire que l'on raconte de l'univers, même s'il est le plus lointain possible, ce n'est pas l'univers. C'est notre histoire. C'est le passé de notre histoire. Et donc, en fait, c'est se situer dans cette histoire et comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on le fait, etc. Et quand on est confronté à des problèmes, comme on est aujourd'hui, eh bien, se sentir inscrit dans un récit, de retrouver notre place de héros de cette histoire-là, je pense que c'est fondamental.
France Culture, la science, CQFD, Antoine Beauchamp.
On poursuit cette heure d'entretien avec vous, David Elbaz, et on va peut-être parler un petit peu de votre formation. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas une formation d'astrophysicien pur. Alors, on va passer sur les petits errements au lycée, le double redoublement qui arrive. Voilà, on a la preuve devant nous, à des gens très bien et qui réussissent très bien leur vie, donc ne paniquez pas si vous redoublez une classe. Cette formation de physicien, vous la faites où? Quels sont à cette époque-là, à cette époque de jeune homme que vous êtes entre Paris et Grenoble, quelles sont les envies que vous avez? Où est-ce que vous voulez aller?
En fait, c'est souvent les rencontres qui font ce qu'on est. Après les classes préparatoires, je suis allé dans une école d'ingénieurs à Grenoble. Et puis, j'ai rencontré deux enseignants, Michel Rossignol et Rafik Balou, qui étaient la science incarnée. Comme la flamme de la science incarnée dans une passion et qui partageait avec les élèves. Et ça m'a profondément touché d'entendre leur langage. Je les ai revus d'ailleurs il n'y a pas longtemps et je ne me rappelais plus à quel point on parlait la même langue. C'est-à-dire qu'on était vraiment en quête d'avancer dans... On s'intéressait à d'autres choses que même ce sur quoi on travaillait, etc. Et ces gens-là, j'ai vu que c'était des gens qui étaient l'incarnation du conteur, en quelque sorte. Et ils m'ont rappelé que, eux, quand ils racontaient leurs histoires, leurs cours, c'était comme une histoire. Ils voulaient nous emporter et ils voulaient pas tellement nous enseigner telle ou telle équation ou telle science. Ils avaient comme intention, même s'ils ne le disaient pas, de nous transmettre la passion. Et donc là, je leur ai dit, écoutez, vous avez réussi. Parce que donc c'était ça un peu mon éducation, c'est ces rencontres. Parfois, on rencontre des gens qui vous portent comme ça. Et puis ça a continué ensuite, des rencontres d'autres personnes que j'ai rencontrées ensuite quand j'ai fait de l'astrophysique, etc., qui m'ont porté à chaque fois.
Et ce qui est intéressant dans votre livre, et vous le rappelez, c'est que n'ayant pas a priori une formation d'astrophysicien, mais de physicien, vous vous posiez des questions naïves et que ça a été une de vos grandes forces par rapport à vos camarades, c'était d'avoir cette naïveté tout à fait honnête et assumée. Alors, qu'est-ce que ça vous a donné comme force, cette naïveté, dans vos interrogations plus d'ordre astrophysique?
Alors voilà, effectivement, j'avais pas le choix parce que j'ai commencé l'astrophysique sans avoir fait du tout de formation astrophysique et j'avais même pas fait ce qu'on appelle le stage aujourd'hui de master M2 dans l'astrophysique. Et donc... les autres, lorsqu'ils posaient une question, ils pouvaient décider ou non d'avoir une question naïve. Toutes mes questions étaient nécessairement naïves, puisque je ne savais pas de quoi je parlais. Donc j'avais tout à apprendre. J'ai d'ailleurs, quand j'ai voulu faire une thèse, j'étais allé voir l'école doctorale, et j'étais demandé à la personne qui était en charge de tous les sujets de me les prêter pour que je puisse voir. Elle n'a pas voulu, parce que je ne faisais pas partie de cette école. Donc je suis allé voir les chercheurs en leur disant « Voulez-vous travailler avec moi ?» Et donc c'était vraiment une approche très différente. Et alors, ça a fait que je me suis retrouvé, je sais pas si je peux raconter cette anecdote de ce qui m'est arrivé pendant ma thèse sur l'origine du fer, ou peut-être...
Alors, on en parlera dans un instant.
Mais donc, ça m'a amené à ne pas nécessairement limiter mon questionnement à un axe précis qui était celui qui était prédéfini, parce que j'avais trop de manque de connaissances. Une fois, je suis intervenu dans une classe où il n'y avait pas de une classe terminale où la physique était une option. Et donc j'ai parlé aux élèves et je leur ai dit, est-ce que ça vous arrive que vos enseignants vous disent que vous êtes des bons à rien et que vous ne savez rien? Alors il y a certains qui disaient, ils osaient pas trop le dire, mais je voyais qu'ils hochaient de la tête. Et je leur ai dit, bon, là, ça, c'est un bon... une bonne base pour devenir chercheur. Ça, c'est la première chose qu'il faut avoir. Si vous êtes bon à rien, vous savez rien, là, vous pouvez faire mon métier. Mais ça suffit pas. Alors là, j'ai vu ceux du fond qui commençaient à écouter. Je leur ai dit, maintenant, est-ce que vous vous posez des questions, etc., etc. Et à la fin, ils ont ouvert une classe de physique. Et c'était pour moi important de savoir d'où on part. Parce que ne pas être capable de nommer son ignorance... parce que c'est une force, une forme de faiblesse, qui est quelque chose qu'on ne va pas marquer, etc. C'est quelque chose qui bloque beaucoup, beaucoup, beaucoup l'avancée des choses. Être capable de dire qu'on ne sait pas, ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est pour ça que Nicolas Decuze appelait ça la docte ignorance, l'ignorance savante. Je pense que c'est ce qui caractérise le mieux les scientifiques, c'est l'ignorance savante, ce n'est pas la certitude.
Alors, on l'a dit, vous avez une formation de physicien et puis vous avez débuté une thèse en astrophysique avec une personne. Je vous propose d'écouter sa voix. Ça va vous rappeler quelques souvenirs, je pense.
Toutes les galaxies émettent des ondes radio.
Mais elles les émettent en tant que telles, globalement ?
Oh, il y a différents mécanismes d'émission. Par exemple, les nébuleuses spirales, comme la nôtre, eh bien, émettent aussi dans l'arrêt à 21 cm de l'hydrogène. Et puis aussi toutes les galaxies, les spirales, les elliptiques, toutes les sortes de galaxies émettent des ondes radio par un autre mécanisme. En fait, il s'agit d'émissions par des électrons de très haute énergie qui circulent dans le champ magnétique de ces galaxies.
Autrement dit, l'univers entier nous envoie des...
L'univers entier nous envoie des ondes radio.
Des messages.
Oui. Bon. Et les objets les plus lointains qu'on ait trouvés dans l'univers, c'est des milliards d'années-lumière. Ces objets les très lointains s'appellent des quasars. Ils ont été découverts par la radioastronomie. Mais on en a identifié un certain nombre, on a identifié un certain nombre de ces radiosources à des objets optiques qui sont tout à fait extraordinaires. Ce sont des objets qui sont considérablement plus brillants que les galaxies habituelles, qui sont très petits. En fait, on pense maintenant qu'il s'agit du noyau extrêmement brillant de certaines galaxies. Ces objets sont très petits et on peut voir leur spectre optique. On peut faire le spectre avec un spectrographe et on y voit des raies spectrales qui sont caractéristiques des mêmes éléments qu'on rencontre sur la Terre, dans notre galaxie, et qui sont très fortement décalés vers le rouge.
Voilà, on est en 1977, vous reconnaissez cette voix?
Oui, James Lequeux. Oui.
James Lequeux, donc votre directeur de thèse, qui évoque cet univers qui nous envoie des messages, dit le journaliste, cet univers qui nous envoie des messages, et vous, déjà, dès ce travail de thèse, c'est de votre métier, c'est de traduire ces messages. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce travail-là, de recherche que vous avez mené avec James Lequeux et Monique Arnaudet?
Alors Monique Arnaud, oui, et donc le sujet sur lequel je travaillais, d'ailleurs un élément qui est intéressant dans ce que dit James Lequeux, c'est que vous regardez un quasar qui est l'objet le plus extraordinaire, qui brille comme 1000 milliards de soleils, qui est dans l'univers lointain, et puis vous reconnaissez la signature des atomes que vous avez sur Terre. C'est ça qui est complètement magique, et qui fait que le quotidien, notre vie quotidienne est déployée dans l'univers. Et parmi ces éléments, il y en a un qui est celui qui donne la couleur rouge de notre sang, qui est le fer. Et une question sur laquelle j'étais amené à travailler pendant ma thèse, c'était qu'on trouvait du fer entre les galaxies dans l'espace. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une énigme. Pourquoi ? Parce que le fer, c'est un atome qui naît dans les explosions d'étoiles, et les étoiles sont regroupées dans des grandes familles qu'on appelle des galaxies, qui sont comme des îles qui flottent dans l'espace. Et donc l'énigme à laquelle j'étais confronté à l'époque, c'était, mais comment expliquer que les galaxies perdent leur sang, perdent leur fer qui est dans l'espace intergalactique? Comment saigne-t-elle, etc.
Pourquoi est-ce que ce sang n'aurait pas pu couler, justement? C'était lié à la gravité propre au système galactique et aux étoiles elles-mêmes?
Exactement, c'est-à-dire qu'en fait une galaxie, elle est soudée par la gravité, et de la même manière que le Soleil tourne, aujourd'hui nous tournons à 800 000 km/h autour du centre de la galaxie parce que la masse de la galaxie nous retient. Et donc si nous avons du mal à sortir de l'attraction terrestre, nous aurions encore plus de mal à sortir de l'attraction gravitationnelle de la galaxie. Et donc il fallait imaginer une puissance extraordinaire qui soit capable de retirer des atomes de fer des galaxies, puisqu'ils étaient nés dans les étoiles, et les mettre dans l'espace intergalactique. Alors, en réfléchissant à ça, on s'est rendu compte que la seule façon de faire ça, c'est que les galaxies aient vécu des flambées d'étoiles extraordinaires et qu'elles aient toutes explosé en une fois. Or, ces galaxies-là n'existaient pas, cette phase n'existait pas. Et puis un jour, une équipe anglaise publie un article qui montre l'existence d'une galaxie qui n'aurait pas dû exister. C'est-à-dire que cette galaxie-là produisait des étoiles à un rythme complètement dingue, dans l'univers très très jeune, et elle avait totalement été ratée parce qu'elle était enfouie dans la poussière interstellaire qui cachait la lumière des étoiles. Lorsqu'elle est arrivée, avec ma directrice de thèse, avec en particulier Michel Cassé avec qui j'interagissais, Elisabeth Van Jonny-Flamme, on s'est dit « Ah, peut-être qu'il y a un lien entre les deux ». Et donc là, j'ai commencé à étudier ça et on s'est rendu compte que ça touchait à différents sujets. Donc on a collaboré avec différents acteurs un peu pour travailler là-dessus. Puis un article est sorti avec une proposition qui serait que cette galaxie-là, c'est le chaînon manquant pour expliquer une phase violente dans laquelle les galaxies se vident un peu de leurs entrailles et qu'on venait de découvrir. Sur ce arrive une conférence qui se passe dans la station des Arcs, dans la semaine de mon anniversaire, qui est le 18 mars. Et puis un professeur américain, qui était toujours avec son chapeau de cow-boy, vient me voir et me dit « J'ai vu que tu avais écrit un article sur cette galaxie-là. Il va y avoir une table ronde autour de cette galaxie-là. Accepterais-tu d'y participer ?» Alors, je dis oui.
Et après,
de façon naïve, parce que moi j'étais naïf. De toute façon, ça ne changeait pas. Sauf que quand j'ai discuté avec mes collègues étudiants, ils m'ont dit « Mais t'es complètement fou. Tu viens de commencer ta thèse, tu as à peine un an de thèse, tu n'avais même pas fait d'astrophysique avant, et ces gens-là sont des experts, ils vont te détruire. Ils vont dire que ton modèle c'est n'importe quoi, tu ne vas pas survivre à ça, c'est comme aller se jeter sous un camion. » Là, c'était trop tard, j'avais dit oui. Puis de toute façon, je leur ai répondu « Oui, mais si on ne va pas sur le front discuter avec les gens, c'est ça la science, c'est de confronter les idées. » Pour moi, même encore maintenant, j'explique à mes étudiants, je leur dis « Voilà, j'ai rien contre toi là, mais ce que je vais te dire là va contredire ce que tu dis. Toi, tu vas me contredire, c'est pas personnel, it's just business. » C'est comme dans la mafia d'un film américain. Et donc là, à un moment donné, quand même, j'ai un collègue qui me dit « Va quand même lui demander comment ça va se passer. On est la veille, le 18 mars, et le truc aura lieu le lendemain. » Et donc, je vais voir le chercheur qui était à table.
Léo Blitz.
Léo Blitz, voilà. Et puis, je lui dis « Comment ça va se passer ?» Alors, il me dit « Je vais te poser une question. Cette question, tu ne sauras pas y répondre. » Et voilà. Je dis « D'accord, quelle est la question ?» Et il me dit « Je ne te le dirai pas. » Et puis il se met à manger avec les gens qui sont à côté de lui. Il ne veut pas me le dire. Je ne bouge pas. Il tourne la tête, il voit que je suis encore là. Il me dit « Tu es encore là ?» Alors je dis « Tu » parce qu'il parle en anglais, donc c'est « You ». Je dis « Oui ». Il me dit « Pourquoi ?» J'attends la question. « Je ne te le dirai pas. » Et donc il reprend la discussion avec les gens. Et je bouge pas. Je sais pas combien de temps ça dure peut-être 20 minutes. Mmh. Et puis, au bout d'une minute, il me regarde, il me fait « Mais dis donc, t'es vraiment têtu, toi. Je vais te dire la question. » Et là, il me donne la question. Et c'est une question complexe. C'est sur le fait qu'il y a des molécules qui sont très agitées dans les galaxies. Et il me dit « Cette agitation des molécules, qui se mesure d'une certaine manière, ne colle pas avec ta théorie. Tu vas pas t'en sortir. » Je rentre m'asseoir à ma table, et puis j'étais assis à côté d'un professeur français qui s'appelle Jean-Pierre Chiez, qui est quelqu'un qui malheureusement a disparu, mais qui était un très grand professeur d'astronomie, un grand enseignant. Et il me dit « Alors, comment ça s'est passé ?» Alors là, je suis désolé pour les auditeurs, mais je vais le dire tel que c'était dans le texte. Hein. Je lui dis « Je crois que je suis dans la merde. » Et là, il me dit « Quelle est la... » Alors je lui dis la question, et là il me dit « Je confirme. »
solidarité totale.
Donc là, on écrit sur les bouts de nappe en papier tout ce qu'on peut comme équation, puis on conforte le fait que j'étais bien
dans
la panade. Je passe la nuit à réfléchir, on n'avait pas d'ordinateur portable, pas d'internet à l'époque, etc. Et là, je réalise que parmi les gens de la table ronde, il y a un autre invité qui, lui, a fait une autre mesure que celle que citait Léo Blitz. Et là, je me dis, tiens, là, j'ai une échappatoire. Arrive le moment de la table ronde, je m'assieds exprès à côté de lui. Ce que je vais dire là, je pense que tout le monde va peut-être... Enfin, il y a peut-être des gens qui vont se dire que j'ai un peu triché, mais il faut mettez-vous à ma place.
Il faut être un peu malin.
Ouais. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'eau en train de vous noyer et qu'on vous jette une bouée, vous n'allez pas dire « Est-elle rouge ou bleue ? J'aime pas la rouge, j'aime pas la bleue. » Vous prenez et vous survivez. Moi, j'étais un peu là. Et donc, je dis à cette personne, j'ai vu que tu avais écrit un article qui mesure l'agitation des molécules. Il me dit, oui, tout à fait. Je lui dis, mais ton article, il est correct. Ben, il me dit, bah, bien entendu. Mm. Je dis, bah, alors, je ne comprends pas. Parce que Léo Blitz, il cite l'autre, celui de l'équipe qui trouve une race de différence, qui suggère que ton article n'est pas correct. Alors, il me dit, mais non, c'est mon article. Je dis, bah oui, c'est bien ce que je pensais, mais alors pourquoi Léo Blitz cite-t-il l'autre? Mm. Et puis, je le laisse comme ça. Et donc là, une fois qu'il était mûr, j'ai attendu. Le moment où on m'a interrogé, je suis venu, j'ai présenté mon modèle. Et là, Léo Blitz a dit, David Elba, je t'avais prévenu que j'allais te poser cette question. Tu as eu toute la nuit pour réfléchir. Devant l'amphithéâtre rempli, il me met bien dans la situation la plus... voilà.
Un bon bisutage.
Bisutage. Et là, je dis merci pour la question. Mais néanmoins, cette mesure ne colle pas avec... Alors l'autre saute, explose, il saute, il arrive, il commence à dire que toute la mesure en question est fausse. Et moi, je vais m'asseoir. Sur ce, après qu'il ait fini, il y a un silence dans la salle, puis il y a une main qui se lève, et quelqu'un dans la salle dit « Oui, mais David Elbaz n'a quand même pas répondu à la question qui était posée. » Silence, je reviens sur le devant de la scène, et là, je visualise devant moi la galaxie, c'est-à-dire que tout mon pouvoir de l'imaginaire est mis en action, je dois créer quelque chose qui me sorte de cette panade. Je vois la galaxie, et là, je réalise que cette galaxie n'est pas toute seule. Elle est en train de se cogner à plein d'autres parce qu'elle est extraordinaire. Oui,
on avait identifié cette galaxie-là, mais on n'en avait pas identifié d'autres
non,
de ce type-là.
Non, pas d'autres. Il n'y avait qu'une seule galaxie comme ça, elle était extraordinaire. Donc, je me suis dit, le fait qu'elle soit extraordinaire prouve qu'elle est dans une région particulière de l'univers. Et les régions particulières de l'univers, ce sont les mégalopoles de l'univers, c'est-à-dire ce qu'on appelle les amas de galaxies. Et l'endroit particulier dans une mégalopole, c'est le cœur d'un amas de galaxies. Et au cœur d'un amas de galaxies, vous avez plein de galaxies qui se cognent les unes les autres. Et ça change l'agitation des molécules dans le gaz, la question que m'avait posée Léo Blitz. Et donc là, je commence à visualiser ça et je décris le truc devant tout le monde. Je dis peut-être que cette galaxie... Non, je dis probablement que cette galaxie est en train de vivre un ensemble de collisions, etc. Quelqu'un dans la salle dit « C'est exactement ce que je pense, ça ne peut pas être autrement, etc. » Je vais me rasseoir. Et la personne qui avait levé la main, qui avait dit David Assad, c'était la directrice de l'institut qui s'appelle Catherine Sedersky. Et tout ça a conduit au fait, je pense, ça a pas mal influencé le fait que j'ai pu avoir un poste après. Et voilà, donc c'est une petite anecdote pour raconter que peut-être, effectivement, je pense que ma vie ma vie a changé du fait d'une galaxie qui n'aurait pas dû exister.
On peut la nommer cette galaxie, c'est la galaxie F10-214+4724. Vous vous en souviendrez, chères auditrices, chers auditeurs. Ouais. Elle a changé la vie de David Elbaz et on va voir dans un instant qu'elle a aussi changé l'histoire de l'univers. Par De Roux dans la science CQFD sur France Culture. Nous voyageons aujourd'hui dans l'univers à dos de galaxies avec notre invité David Elbaz, astrophysicien, directeur scientifique du département d'astrophysique au CEA. Alors David Elbaz, on vient de parler de cette galaxie si particulière et qui a, vous le dites, changé votre histoire à vous, mais aussi changé notre rapport à l'histoire de l'univers. En quoi cette galaxie-là a-t-elle ouvert de nouveaux horizons colossaux pour comprendre la formation des galaxies et leur évolution?
Il s'est passé avec cette galaxie ce qui se passe souvent en astrophysique, c'est que lorsqu'on découvre quelque chose d'unique, très rapidement, on s'aperçoit après que c'est parce qu'on n'avait pas bien regardé et que ce qui nous paraissait singulier était universel. Ça s'est passé très souvent. Par exemple, on a découvert les premiers trous noirs au centre des galaxies et on pensait que c'était des cas extrêmes, extraordinaires. Et le télescope spatial Hubble a montré qu'ils étaient partout, dans toutes les galaxies. Ils étaient omniprésents. Dans ces cas-là, cette galaxie, c'était une version démultipliée de ce qu'on appelle les pouponnières d'étoiles, qui sont des nuages de poussière dans lesquels naissent les étoiles, comme dans des chrysalides. Et lorsqu'une chenille va se transformer en papillon, toute la transformation est invisible dans la chrysalide. Et bien, les étoiles, lorsqu'elles naissent, toute cette naissance d'étoiles est invisible et elle se passe dans ces chrysalides qu'on appelle des nébuleuses, des pouponnières d'étoiles. Et lorsque on regarde ces chrysalides dans l'infrarouge, dans un domaine invisible à nos yeux, mais qui permet de voir à l'intérieur, un peu comme si on faisait une échographie, on voit naître les étoiles. Et ce qui s'est passé avec cette galaxie-là, c'était qu'on venait d'avoir peut-être un échantillon de ce que pouvait être une galaxie tout entière fœtus, c'est-à-dire faite de complètement remplie donc c'est une maternité entière. Et depuis, juste après, on a lancé un satellite européen qui s'appelait le satellite infrarouge, l'observatoire satellite infrarouge ISO, et qui a permis de découvrir une floraison de galaxies comme ça. Puis on s'est rendu compte que le ciel, la nuit est noire, la nuit, mais en fait elle est infrarouge, qu'on reçoit un flot de lumière infrarouge incroyable. Puis est arrivé un satellite américain, puis de nouveau un européen, puis un observatoire dans le désert d'Atacama, et chaque fois, on a plongé un peu plus loin dans l'univers, et on était aux premières loges, justement avec nos collaborateurs, pour démontrer qu'on s'était trompé sur le rythme des naissances d'étoiles dans l'univers par un facteur 10. C'est-à-dire qu'on n'avait vu que 10%, même avec le télescope Hubble, de la fertilité de l'univers dans la capacité de toutes ces naissances d'étoiles dans des chrysalides. Et donc cette galaxie-là, en étudiant, en partant à la recherche d'autres, qui étaient un peu moins extrêmes que celle-là, on s'est rendu compte que c'était non seulement des galaxies qui existaient, mais qu'elles, toutes les galaxies, ont vécu cette phase-là. C'est comme les trous noirs dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes les galaxies ont eu un moment où elles étaient, où elles fécondaient leur matière, elles fertilisaient leur matière, elles donnaient naissance des étoiles dans la discrétion la plus totale et qu'on ne peut révéler que en les regardant à l'infrarouge. Et ça, ça a complètement changé notre vision de l'histoire de la naissance des étoiles et des galaxies.
Alors David Elbaz, vous dites qu'on avait une mauvaise estimation de la fécondité, du rythme avec lequel les galaxies fabriquent des étoiles dans l'univers entier. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée exacte, précise de ce rythme-là, ou est-ce qu'on a une estimation en tout cas plus juste? Et si oui, à quel rythme les étoiles se forment pendant qu'on se parle?
Au moment où on se parle, alors c'était pas calculé, je vous remercie pour la question, parce que je me suis vraiment posé cette question-là. On a accès à une partie de l'univers qu'on appelle l'univers observable, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine limite qu'on appelle le fond diffus de l'univers, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Donc, dans cette zone qui est autour de nous, qui fait 45 milliards d'années-lumière, donc quand même une grande zone, il naît, au moment où je vous parle, 9474 étoiles par seconde, et on sait que les étoiles naissent avec leur cortège de planètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le début et la fin de cette phrase, il est né 100 000 mondes. 100 000 étoiles avec leur cortège de planètes qui peut-être, pour certains, donneront naissance à de la vie. Ça veut dire que depuis que je vous ai parlé des 100 000, il en est né 200 000 autres. Ça veut dire que pendant qu'on vit là, le monde est en train de se créer, de se multiplier à un rythme prodigieux. Et si on remonte dans le passé, on s'aperçoit qu'il y a environ 10 milliards d'années, il en naissait 10 fois plus. C'est-à-dire qu'il naissait 100 000 étoiles avec leur cortège de planètes à chaque seconde.
Remonter dans le passé de l'univers et de la lumière, finalement, c'est votre métier, David Elbaz. Tout ça, ce voyage dans le temps et dans l'espace, il est de plus en plus permis par des instruments de plus en plus perfectionnés. Vous le dites dans votre livre, on vit le siècle d'or de l'astrophysique. Alors justement, ces instruments-là, leur grande qualité, c'est que finalement, ils nous permettent maintenant de voir dans l'invisible, de voir dans l'infrarouge, et qu'a été cet apport de l'infrarouge pour la compréhension de la formation des étoiles, de la formation et de l'évolution des galaxies?
Alors, juste, la difficulté de l'observation dans l'infrarouge vient du fait que l'atmosphère rayonne dans l'infrarouge, absorbe le rayonnement qui vient de l'espace dans l'infrarouge, et donc toute une partie de ces couleurs de l'univers nous est totalement inaccessible depuis un télescope qui serait là sur le sol. Et même si vous envoyez un télescope au-delà de l'atmosphère, vous allez être rapidement ébloui par la lumière de la Terre dans certains domaines de fréquence. Et donc vous devez l'envoyer, pour le dernier, le télescope spatial James Webb, à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour observer. Alors pourquoi on regarde dans l'infrarouge ? Il y a plusieurs raisons. Hein. La première, c'est que pour regarder aux confins de l'univers, on regarde de la lumière qui voyage. Pendant que je vous parle, là, il y a la lumière qui voyage depuis des milliards d'années. Si je sortais de ce studio et que je mettais ma main tournée vers le ciel, une partie des grains de lumière qui arriveraient sur ma main arriveraient après avoir voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. C'est complètement dingue, ce n'est pas la majorité, mais certains. Et si ma main avait la capacité de les identifier, ces particules de lumière-là, qu'est-ce qu'elles verraient ? Elles verraient qu'elles ont été dilatées pendant leur voyage comme des élastiques qui s'étirent parce que l'univers s'est étiré pendant ce voyage et que cette lumière s'est transformée dans le domaine de l'infrarouge qui est le domaine des grandes longueurs d'onde. Et c'est pour ça que l'on a besoin de télescopes qui regardent dans l'infrarouge pour remonter là. Et puis parce que ces longueurs d'onde sont grandes, ce sont aussi celles qui traversent les cocons de poussière et donc qui nous permettent de voir dans l'infrarouge. Et donc, il faut des détecteurs qui soient capables de voir cette lumière-là sans être éblouis par eux-mêmes, parce que nous-mêmes, nous sommes des sources puissantes de rayonnement infrarouge. Et ce sont donc des détecteurs qui doivent être refroidis à très très basse température. Il y a donc toute une science de ce qu'on appelle la cryogénie, faire des cryostats qu'on envoie dans l'espace pour associer à des détecteurs sensibles à infrarouge, déployer notre regard dans l'invisible.
David Elbaz, pour comprendre un petit peu et pour que nos auditrices et auditeurs comprennent un peu l'apport de cette observation dans l'infrarouge, est-ce qu'on pourrait avoir une idée des grandes découvertes qui ont pu être réalisées autour des galaxies, autour de la compréhension de la formation des étoiles grâce à cette technique-là ?
Oui, donc déjà, dès lors qu'on a ouvert le regard dans l'infrarouge, alors l'infrarouge c'est cette couleur de l'invisible, ça a été découvert le mardi 11 février par William Herschel, qui était un physicien et astronome.
19e siècle.
Voilà. Et donc, mardi 11 février 1800, 19e siècle, donc ça fait vraiment longtemps. Et 95 ans après, en 1895, Wilhelm Röntgen va découvrir les rayons X, qui va aussi dévoiler certains autres aspects de l'univers. L'infrarouge nous permet de voir ce qu'on appelle l'univers froid, c'est-à-dire des basses températures. Les nuages qui rayonnent de la lumière infrarouge sont à des températures de 30 degrés au-dessus du zéro absolu, c'est-à-dire quand même moins de 240 degrés. Et pour nous, c'est des sources de lumière, parce qu'elles sont plus chaudes que l'espace qui est à environ 2,7 degrés au-dessus du zéro absolu. Avec l'infrarouge, ce qu'on a pu découvrir, c'est des étoiles naissantes. On a découvert récemment des disques de poussière qui enveloppent des étoiles naissantes. Et on a commencé à voir des protoplanètes en train de naître qui nettoient dans leur orbite toute la matière, c'est-à-dire qui absorbent la matière, dont une, par exemple, qui a été vue par le radiotélescope ALMA, alors dans le domaine submillimétrique, mais c'est toujours ce domaine des grandes longueurs d'onde, qui a permis de voir une planète à la distance de la Terre au Soleil en train de naître. Donc c'est comme si on était les témoins en direct de la naissance de la Terre, de notre Terre, sauf qu'on ne sait pas si celle-ci aura la vie plus tard, etc. Voilà, on voit naître des planètes, on peut voir des molécules, on peut voir avec l'infrarouge auquel a accès le James Webb, on pourra voir s'il y a de l'eau, du méthane, de la phosphine, de l'ammoniac, du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, dans l'atmosphère des planètes qui tournent autour d'autres étoiles et commencer à définir des diagnostics de la physique et de la chimie de cette atmosphère pour arriver vers des diagnostics de biosignatures, de possibles signatures de présence d'eau liquide, voire même de vie, dans des planètes à terme. Voilà, on est en train de construire un télescope de 39 mètres, l'ELT, qui pourra aller... Donc, l'infrarouge, c'est voir les planètes naissantes, c'est voir les étoiles naissantes, c'est voir les galaxies aux confins de l'univers. On est en train de découvrir, là, maintenant, des galaxies qui remontent à ce qu'on appelle l'aube de l'univers, la naissance des premières sources de lumière de l'univers, et qui nous racontent ce qui s'est passé au lendemain de la longue nuit qui a duré peut-être 100, 200 millions d'années après le Big Bang, avant la naissance de la première étoile. Et puis est arrivée la naissance des premières sources de lumière, l'aube de l'univers, et qui va nous permettre de comprendre si les lois de la physique, qui sont dans ce studio radio, la gravité, l'électricité, l'électromagnétisme, le champ magnétique. Ces lois-là, si je les applique au moment de la naissance de l'univers, enfin de la naissance des premiers instants de l'univers, eh bien, est-ce que je peux expliquer ce que j'observe ou bien est-ce qu'il faut changer notre perspective? Pour l'instant, ce qui est extraordinaire, c'est que l'univers est une loupe qui nous permet de voir l'invisible qui est ici, mais qui est le même que celui qui est ici.
Mmh. Vous en rendez compte, David Elbaz, dans ce livre, de ces façons de voir l'univers, de l'envisager, de le comprendre, de l'observer. Ce livre, il s'appelle « Les 10 001 nuits de l'univers, la danse du cosmos ». Vous nous proposez non pas 4 chapitres, mais 4 belvédères pour structurer votre cheminement à travers ces pages. Pourquoi des belvédères et surtout, quel panorama nous permettent de voir ces belvédères? À quoi on peut assister grâce à ces 4 points de vue différents?
Alors, au cours des dernières 10 001 nuits, alors pourquoi je parle des 10 001 nuits? D'une part parce que ça fait écho aux 1 001 nuits, mais aussi parce que, entre la découverte de la première planète qui tourne autour d'une autre étoile,
95,
octobre 95, et le décembre 95, l'image la plus profonde de l'univers faite par un télescope Hubble, et aujourd'hui, il s'est écoulé à peu près 10 000 nuits. 10 000, c'est aussi le nombre de l'infini pour les Chinois. Les 10 000 êtres, c'est vraiment l'infini. Et donc 10 001, c'est d'essayer de tenter de voir un peu au-delà de l'infini. Et je parle de Belvédère pour la raison suivante, c'est que souvent on nous dit, mais je ne comprends pas. Vous, les scientifiques, vous passez votre temps à poser des questions. Quand est-ce que vous allez avoir une réponse? Mais lorsque vous entreprenez l'escalade d'une montagne, dès lors que vous arrivez à un premier belvédère, à un premier niveau, vous voyez beaucoup plus loin que ce que vous voyez au pied de la montagne. Et donc, vous avez une connaissance plus vaste de ce qui est autour de vous, mais est-ce que vous connaissez tout? Est-ce que vous savez tout? Non, vous pouvez mesurer aussi votre ignorance. Vous pouvez mesurer ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Vous avez un premier point de vue. Et la montée dans la connaissance, ces 4 belvédères, ces 4 points de vue qui, à chaque fois, ont transformé notre regard sur l'univers. Il se trouve qu'au cours de ces 10 000 nuits, des découvertes extraordinaires ont été faites sur l'univers. On a vu la première image de l'ombre d'un trou noir, on a vu des ondes gravitationnelles, etc. Mais j'étais aux premières loges d'un véritable bouleversement de notre compréhension de l'histoire de l'univers qui transforme complètement ce qu'on sait de ce qu'est l'univers, un changement de paradigme profond qui a été réalisé en regardant l'univers infrarouge. Et c'est ça que raconte le livre. C'est qu'aujourd'hui, l'univers n'est plus le même. C'est-à-dire qu'on a modifié le présent en allant dans le passé, comme dans les films de science-fiction, où quand quelqu'un va dans le passé, il change le présent.
Si schématiquement, on devait décrire l'univers tel qu'on le concevait au début des années 90, quand vous faites votre thèse, par exemple, et 2022, aujourd'hui, à quoi ça tiendrait cette différence? Quelles seraient les deux? Est-ce qu'on serait passé de la 2D à la 3D? Je dis cette analogie-là un petit peu par commodité, mais est-ce qu'on est passé du noir et blanc à la couleur? Enfin, expliquez-nous un petit peu ça.
Alors, quand j'ai commencé ma thèse, il y avait quelques galaxies qui étaient qui remontaient, disons, environ 8 milliards d'années dans le passé, et puis peut-être une ou deux extraordinaires un peu plus lointaines. Et puis, au cours du temps, on s'est rendu compte que on pensait que l'univers était fait d'événements chaotiques, que les formes étaient complètement aléatoires, que les galaxies se croisaient. Elles avaient des flambées d'étoiles au cours d'accidents réguliers, etc. Donc, il y avait une vision un peu d'un monde un peu chaotique. Mmh. Voilà, un peu. Et ce qui a changé dans la vision qu'on a d'aujourd'hui de l'univers, c'est que aujourd'hui, on s'est rendu compte, on a fait une découverte d'une loi qui ressemble à celle qui a été découverte en 1932 par un biologiste qui s'appelle Max Kleber, qui est la loi qui montre que les êtres vivants, les mammifères, ont un métabolisme qui est régulé, qui est autorégulé, comme l'homéothermie, et qui dépend de la masse de l'animal, mais qui a une sorte d'universalité. Vous prenez un écureuil, un éléphant, différents animaux, ils ont des formes différentes, des masses différentes, mais la physique, la chimie, la biologie à l'intérieur de l'animal est la même, il y a une universalité. Eh bien, on a mis en évidence cette loi-là, pour les galaxies. En fait, ça, c'est notre équipe qui l'a découvert, et ça reflétait deux choses. La première, c'est que par un étrange processus, les galaxies semblaient vivre bien plus longtemps. Elles avaient une capacité de vie éternelle bien plus longtemps que ce dont elles avaient les moyens de faire. Elles avaient assez de réserves pour vivre 600 millions d'années, et pourtant elles vivaient des milliards d'années. Donc il y a une source de jouvence inconnue. Et elles formaient leurs étoiles avec un rythme, avec un métabolisme, une sorte d'homéostasie. Elles avaient toutes une régularité, comme ça. Et cette régularité, on ne savait pas l'expliquer. Mmh. Et là, les découvertes les plus récentes ont montré que cette régularité vient probablement du fait que les galaxies sont toutes reliées entre elles, comme les neurones sont reliés par les axones, les dendrites, par des filaments qui les nourrissent. Je ne parle pas des grandes structures de l'univers qu'on connaissait. Si vous regardez l'alignement des galaxies, ça semble dessiner une toile, la toile cosmique. Je parle de ce qui se passe à l'échelle d'une seule galaxie qui reçoit ce que j'appelle des fleuves cosmiques qui la nourrissent.
Comme des vaisseaux,
comme des vaisseaux, comme des cathéters, voilà, ouais. Des vaisseaux sanguins qui la nourrissent en permanence et qui la font tourner, comme l'eau fait tourner un moulin. Et la galaxie, en tournant, elle maintient son métabolisme régulier et elle crée des vagues. Et à l'intérieur des vagues, il y a de l'écume. Et dans cette écume naissent les étoiles. Nous sommes nés dans l'écume de la robe dansante d'une galaxie.
Nous sommes les enfants de la danse des galaxies.
Nous sommes les enfants de la danse
des galaxies. C'est ce que vous dites dans votre livre. Ce mouvement de danse, pourquoi est-ce qu'il est aussi capital, non seulement à comprendre, mais aussi à décrire? Parce que quand on voit les images des galaxies, on s'imagine justement, compte tenu de leur masse, de leur dimension, quelque chose de très serein, de très calme, de très statique, de très immobile d'une certaine façon. Vous montrez dans votre livre qu'il n'en est rien. Les spécialistes le savent, mais quand on n'est pas forcément spécialiste, on se pose pas. Voilà, on voit ça. Ça nous semble infiniment grand et donc infiniment immobile. Et là, justement, vous tordez le cou à cette idée reçue-là. Il y a de grands mouvements, de grandes valses de galaxies entre elles-mêmes.
Oui.
Qu'est-ce que ça a comme influence sur l'évolution de la forme de notre univers et sur l'évolution des galaxies elles-mêmes?
Oui. La seule interaction à distance qu'il y a dans l'univers, c'est la gravité. Au centre de notre galaxie, il y a un trou noir qui fait 4 millions de masses solaires et qui ne demande qu'une chose, c'est de nous bouffer. C'est l'ogre. Et pourtant, il est à jeun. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne mange pas avec tout ce qu'il y a autour de lui? Parce qu'on danse. Parce qu'on tourne autour et on évite le monstre en tournant sans arrêt. La vie est une tension permanente. Le cœur bat, on croit qu'on est immobile, vous et moi, nous sommes immobiles dans ce studio, et pourtant, si on regardait à l'intérieur,
On est à bord d'un vaisseau spatial, on est sur Terre, la Terre circule à une vitesse de...
Oui, on tourne à 220 km par seconde, voilà.
Et on parcourt combien de kilomètres?
Alors, entre le début et de l'émergence de la vie sur Terre, il y a 3,6 milliards d'années, par exemple, pour donner un exemple. Et maintenant, on a fait 18 tours de la Voie lactée, donc on est majeur à l'échelle galactique.
Bon, on peut voter, ça c'est pas mal. Voilà. Alors, j'en reviens à ma question, de ce mouvement, permanent qu'on a tendance à oublier et de son influence sur à la fois la survie de systèmes planétaires comme le nôtre et sur l'évolution de la forme des galaxies.
Exactement. Vous venez de dire la survie des systèmes planétaires comme le nôtre. La Terre tourne autour du Soleil et grâce au fait qu'elle tourne autour du Soleil, elle ne tombe pas dans le Soleil. Le système solaire tient comme ça. Le Soleil avec la Terre tourne autour du centre de la galaxie, et ce faisant, nous engendrons, avec le mouvement de toutes les étoiles, par l'affinité qu'ont les étoiles les unes avec les autres par leur attraction gravitationnelle, malgré le fait qu'elles aient chacune un mouvement libre autour du centre de la galaxie, on engendre des vagues. Ces vagues-là, c'est celles qui vont fertiliser la galaxie. Et ce qu'on a pensé pendant un moment, avec les images du télescope Hubble, c'était que cette danse était très récente. Et que dans l'univers qui remonte dans le passé, les images que nous rapportait Hubble suggéraient que les galaxies étaient tout à fait difformes et qu'elles n'avaient pas encore commencé leur danse. Et c'était en contradiction avec cette loi universelle dont je parlais tout à l'heure. Et ce qui est en train... Et on commence à avoir d'autres indices avant le James Webb, mais ce que vient de voir le James Webb, là maintenant, donc lundi 11 juillet 2022, le président américain Joe Biden montre la première image du James Webb. Le lendemain, les images sont mises en public pour tous les scientifiques. Le surlendemain, les premiers articles commencent à tomber. Et les scientifiques se jettent sur tout ça. Et il y a des découvertes qui sont en train d'émerger. Ça va prendre du temps. Mais peut-être la plus, pour moi, belle découverte qui est en train d'émerger, c'est qu'on voit la véritable forme des galaxies dans l'invisible. Et elles dansent jusqu'au premier, même milliard d'années après le Big Bang. Et elles tournent sur elles-mêmes. Qui est peut-être l'incarnation de ces fleuves qui les nourrissent, dont on ne voit pas facilement ces fleuves-là, mais on les voit tourner. Et grâce à cette rotation, la matière résiste à la gravité. Ce n'est pas une volonté, il n'y a pas d'intention. Il se trouve que ce mouvement-là fait qu'il y a cette universalité du métabolisme des galaxies, en quelque sorte, du rythme auquel elles donnent naissance à leurs étoiles, qui est maintenu de manière régulière et qui fait que, grâce à ces fleuves, grâce à cette danse, l'univers arrive à ce qu'il est. Et si ça n'existait pas, L'univers aurait épuisé toutes ses réserves il y a 10 milliards d'années. Toutes les étoiles seraient nées d'un coup. On n'aurait pas eu d'enrichissement progressif. Le fer qui est dans mon sang, dont on parlait tout à l'heure, d'où vient-il? On a la quasi-certitude qu'il vient de l'explosion d'une étoile qui a explosé il y a environ un peu plus de 4,5 milliards d'années. Que l'onde de choc de l'explosion de cette étoile a provoqué l'effondrement d'un nuage qui a donné naissance au système solaire tout en lui apportant le fer qui coule dans notre sang. Et donc, c'est à la fois le cadavre d'une étoile et la naissance de systèmes solaires, d'autres étoiles, le Soleil et d'autres, de planètes. Et ce cycle de la vie et de la mort se fait de manière régulière avec un enrichissement vers plus en plus de complexité grâce à ce métabolisme. Grâce à la danse des galaxies, on maintient le rythme tranquille. S'il n'y avait pas cette régulation par la danse, si on se laissait aller à la gravité, tout se serait fait en très peu de temps et il n'y aurait plus rien.
Alors, l'émission touche bientôt à sa fin. J'aurais malheureusement pas le temps d'aborder la question de l'énigme terrible de la matière noire et des raisons pour lesquelles cette expansion de l'univers est accélérée, pourquoi finalement tout s'intensifie et pourquoi il y a de plus en plus de photons, par exemple. Je suis le génie de la lampe dans les 10 000 et une nuits de l'univers. Vous avez le droit à 3 vœux. Allez, oui, 3 vœux rapides. Oui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir comme réponse aux questions que vous vous posez?
Alors, est-ce que j'ai le droit de poser même des questions sur des sujets qui ne sont pas les miens?
Bien sûr.
Oui. Alors, un des vœux qui me touche particulièrement, c'est vraiment de savoir s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. Même si c'est naïf, on est encore dans... Savoir s'il y a de la vie, si je pouvais faire un vœu, ça serait même d'avoir un contact avec d'autres. Là, je suis dans la science-fiction, mais tant pis, c'est un vœu, j'ai le droit à un vœu. Mmh. J'ai le droit à un vœu. Et donc, je ne sais pas si ça compte pour deux, mais pouvoir parler avec des extraterrestres, ça serait extraordinaire. Alors là, je suis complètement à la science-fiction, hein, d'accord. Mais c'est tellement le lieu de tous les possibles, ce qu'on est en train de faire, que pourquoi pas. Quelque chose d'un peu moins science-fictionnesque, que on puisse, dans les années qui viennent, par exemple, le satellite Euclide va être lancé l'année prochaine, qui va essayer d'explorer la nature de la matière noire et l'énergie noire, avoir une réponse à cette question, même si elle va nécessairement ouvrir à d'autres questions, de comprendre, voilà, 95% de l'univers fait de composantes inconnues. Je rêve du fait que ça bouscule nos théories et que ça prouve que ça ouvre une porte vers autre chose que la théorie d'Einstein, par exemple. Voilà. Et puis, dernier vœu, beaucoup plus personnel, c'est que dans la quête de ces galaxies qui n'auraient pas dû exister, j'aimerais bien qu'on les voit naître avec le James Webb, qu'on voit comment elles ont commencé à danser, qu'est-ce qui a lancé la danse, qu'on voit ces filaments et qu'on comprenne le secret de ces galaxies qui n'auraient pas dû exister et qui ont changé ma vie.
Écoutez, je vous pique votre expression, mais ça, c'est une autre histoire qu'on peut relire dans votre livre « Les 10 001 nuits de l'univers, la danse du cosmos ». Merci infiniment, David Elbaz, de nous avoir accompagnés pour cette heure d'entretien.
Merci,
écoutez,
Antoine.
On va suivre vos travaux et puis les découvertes autour des galaxies. Un grand merci à l'équipe de la science CQFD, Natacha Triou, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Loïc Dutois, Mariam Ibrahim, Natacha Demoul, Garance Prema Agnolo, Clémence Alzar, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Noé Chaban. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France et continuer de nous suivre sur notre compte Twitter @sciencesqfd. On se retrouve la semaine prochaine dans l'émission et en attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.